Et pour d'autres, c'est la continuité, je sais, hein. Mais pour beaucoup, hein, la grande majorité, c'est la rentrée, la reprise après l'été. On va retrouver des nouveaux camarades, des nouveaux collègues de travail, peut-être, nouvelle direction, c'est pas nouvelle entreprise. Et tout cela se passe, bien sûr, dans le monde. Parce que nous vivons dans le monde. Et nous voulons regarder, donc, apprendre comment nous pouvons aborder notre témoignage, notre vie, dans les circonstances qui vont être les nôtres, hein, qui vont être pour certaines peut-être faciles, pour d'autres plus difficiles. Alors, si on lit... le livre de Daniel, en tout cas le premier chapitre de Daniel, eh bien on voit que le tableau qui est dressé est un tableau assez sombre, hein, des circonstances de la vie du royaume de Juda. Le premier verset dit la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le peuple est assiégé, les familles, on pourrait dire, sont brisées un peu, hein, démantelées, et puis même les meilleurs éléments sont amenés, hein. Regardez la suite, il dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, de famille noble. Hein, pour appeler ça une décapitation un petit peu, hein, on va enlever la force vive, hein, de la nation, et puis on va la démanteler, on va l'amener, on va la conditionner à la mode babylonienne. Un petit peu, c'est ce qui se passait. Et tout cela a lieu à cause de la désobéissance, bien sûr. Et ces choses arrivent conformément à ce que Moïse, n'est-ce pas, avait annoncé au peuple et aux mises en garde qu'il leur avait fait. Donc c'est dans ce contexte qu'on trouve un peu de déportation, qu'on trouve l'histoire de Daniel et de ses trois amis. Trois jeunes gens, Daniel, Anania, Mischaël et Azaria. Vous connaissez bien cette histoire. Et donc le premier chapitre du livre nous montre ce que doit être la vie, je pense, hein, on pourrait l'utiliser en tout cas en illustration de ce que doit être la vie du chrétien normal en temps de crise. Parce que c'est un temps de crise, hein. C'est pas ce que certainement ces jeunes auraient souhaité hors de leur famille, ce sont des tout jeunes gens. Et là, je trouve que ce passage nous montre qu'il y a toujours un chemin, même au milieu des circonstances, on va dire, difficiles ou tumultueuses, pour celui qui veut vivre pour Dieu. Même au milieu des circonstances difficiles, il y a un chemin pour celui qui veut vivre pour Dieu. Et Daniel, Azaria, Anania et Mischaël montrent ce que c'est qu'une vie de séparation, en fait, hein, on pourrait dire ici. Donc, on peut voir plusieurs aspects de cette séparation, en tout cas plusieurs caractères de cette séparation. Premièrement, on regarde le verset 4, il dit, verset 3, « Le roi donna donc l'ordre au chef des eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. » Vous voyez ça, hein, c'est vraiment les meilleurs là qui sont pris ici. Et on va voir comment ces jeunes, enfin en tout cas quelques éléments, comment ces jeunes, surtout Daniel, trouvent son chemin au sein de ces circonstances difficiles. Parfois, on entend souvent dire « moi, je ne peux pas faire autrement, hein. C'est comme ça, les circonstances sont comme ça, il faut bidouiller, hein. C'est le système D, et on ne peut pas, tout le monde fait ça, et en tant que chrétien, on ne peut pas faire autrement que ce que tout le monde fait. » Et ces jeunes hommes nous montrent qu'en tant qu'enfants de Dieu, il y a toujours un moyen, Dieu pourvoit toujours un moyen pour que nous puissions marcher dans l'obéissance. La première chose que l'on peut voir ici, c'est que la séparation, la marche au sein des circonstances difficiles repose sur une résolution intérieure. Première. Il est dit ici, verset 5, que le roi leur assigna pour chaque jour une portion de la table du vin dont buvait le roi, et il voulait les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, parmi donc ces personnes, des enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna donc des noms, Daniel, à Daniel celui de Belshazzar, Anania celui de Shadrach, à Miskaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abed-Nego. Et verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, il y a d'abord ici, on peut voir une résolution de la part de ce jeune homme. Et il pose là le premier principe, on pourrait dire, hein, quand on veut vivre au sein de, triompher au sein des circonstances difficiles, il faut des choses qui sont déjà arrêtées dans le cœur. Parfois, on n'a pas forcément toujours des choses arrêtées. Et c'est dans le cœur que commence vraiment la véritable séparation. Et les véritables résolutions se prennent dans le cœur avec le Seigneur. La version d'Arbi dit « Daniel arrêta dans son cœur ». C'est-à-dire qu'il a pris cette disposition d'emblée. Et certainement, il ne les a prises pas au moment où les circonstances se sont présentées. C'était déjà probablement des convictions qu'il avait de ne pas se souiller avec quoi que ce soit. Et puis, quand il arrive là, eh bien, il ne va pas se souiller avec ce qu'il y a qui pourrait le souiller. Donc, il prend ici cette résolution. Et quand on pense que ces jeunes étaient, ces personnes étaient très jeunes, hein, on peut être stupéfait devant cette force de caractère. Et pour nous, beaucoup d'engagements font souvent pchit, hein, on pourrait dire, hein, ça ne dure pas longtemps parce que il n'y a pas de résolutions qui sont prises dans le cœur. On appelle ça, on vit à la petite semaine, c'est-à-dire au jour le jour. On voit comment les choses sont et puis on prend les décisions en fonction. Et donc, on n'arrive pas à très loin parce qu'il n'y a rien de scellé dans le cœur. Alors, quand on va se présenter demain, après-demain, je ne sais plus, dans les circonstances qui sont les nôtres au travail, s'il n'y a rien déjà comme conviction, comme décision, comme résolution arrêtée, on risque de chuter, de ne pas et de ne pas pouvoir trouver vraiment sa route au sein des circonstances qui sont les nôtres. Avec ce que Daniel, on pourrait dire, sait de Dieu, il a arrêté déjà une résolution dans son cœur. Et deuxième chose qu'on pourrait souligner, c'est que Daniel cherche à garder, ces 3-4 hommes, leur identité, cherche à garder leur identité. Ici, on voit que les jeunes étaient déportés, leur vie était vraiment réglée au millimètre. Hein. On les faisait faire des études, on leur donnait des aliments et on changeait même leur nom. Hein. On leur donne des noms différents, on leur apprend une autre langue. Hein. Si vous voulez asservir un peuple, commencer par lui apprendre une autre langue. Hein. Et souvent, les gens qui luttent pour l'indépendance de leur pays, hein, ça arrive des fois chez nous, hein, en Martinique ou en Guadeloupe, enfin, les gens luttent pour, et voilà. Et on met tout de suite en avant la langue, hein, parce que c'est le premier signe identitaire ici, hein, qu'on a. Et donc, tout était fait ici pour qu'ils puissent oublier, je crois, hein, leur origine, hein, leur culture, leur religion, qu'ils puissent embrasser des nouvelles pensées, qu'ils puissent vraiment être comme les Babyloniens. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Daniel accepte un certain nombre de choses. Il ne rejette pas tout. Hein. Il ne dit pas « je ne veux pas être appelé, qu'on l'appelait comment déjà, Belshazzar ». Ça, il accepte. Hein. Ce qu'il refuse ici, c'est tout ce qui pourrait l'engager dans une voie qui serait contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui pourrait le pousser à commettre un péché contre ce qu'il sait être la loi de Dieu. Et apparemment, dans les aliments, il y avait des choses de cette nature. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il disait la nourriture babylonienne n'est pas bonne, ou le vin babylonien n'est pas aussi bon que le vin des coteaux de Jérusalem. Ce n'est pas ça qu'il disait. Mais c'est que probablement, il pourrait être mis en face de nourriture qu'il ne devait pas manger, hein, qui était considérée impure dans la loi, ou de nourriture qui aurait été sacrifiée peut-être à des idoles, et il ne voulait pas être en communion, comme l'apôtre Paul dit, hein, celui qui participe, vous vous rappelez, dans 1 Corinthiens, à la table des idoles, où il y a de la viande sacrifiée, mais il participe, il est à la communion des idoles. Donc Daniel est soucieux de cela. C'est-à-dire, il accepte tout ce qu'il peut accepter, tout ce qui n'est pas gênant, mais tout ce qui peut l'entraîner dans une voie contraire à celle de Dieu, il dit non. Il garde son identité de chrétien. Et pour garder cette identité de chrétien, eh bien, il exerce, on pourrait dire, une intelligence et un discernement. Il sait voir le mal ou le piège là où il se trouve. Parfois, on dit, bon, ça, c'est pas grave, c'est un petit truc. C'est pas tout à fait orthodoxe, mais c'est pas ça qui va m'éloigner de Dieu. Il faut être extrêmement vigilant et demander à Dieu vraiment du discernement pour voir le danger où il se trouve. Et donc, son identité n'est pas en danger quand il étudie les lettres babyloniennes. Son identité n'est pas en danger quand il apprend la langue des Chaldéens. Son identité n'est pas en danger quand il change de nom. Et son identité n'est pas en danger quand il se trouve au milieu d'une génération païenne. Mais son identité est en jeu lorsque on lui propose de s'associer d'une manière ou d'une autre à ce qui est païen. Vous voyez ? Et donc, il est soucieux de demeurer séparé en gardant son identité. Donc, chaque fois que nous refusons la séparation, nous refusons cet esprit de discernement, nous perdons notre identité de chrétien. On a des exemples dans la Bible, hein, vous vous rappelez de Josaphat qui s'allie avec Akab par mariage. Et puis à un moment donné, il lui dit, « Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi. » Moi comme toi, alors que c'était deux rois complètement différents. Akab, la Bible dit qu'il n'y avait jamais eu de roi aussi mauvais que ce roi-là. Et parfois on entend des croyants qui disent, il faut montrer aux gens du monde que nous sommes comme eux. Ils n'ont pas besoin qu'on leur montre ça, ils savent déjà que nous sommes des êtres humains comme eux. Le croyant est amené à montrer la différence et pas la similitude. Et parfois on dit, pour gagner des gens, il faut le montrer qu'en fait que nous sommes comme eux. Quelqu'un, je me rappelle, qui me disait, mais il faut qu'on montre qu'on s'amuse comme eux. Il faut qu'on leur montre qu'on n'est pas différent, qu'on est des êtres humains comme eux, on n'est pas des extraterrestres chrétiens. Hein? Ils savent que nous sommes comme eux. Et l'apôtre Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et lorsque Dieu parle à Ézéchiel et qu'il parle il parle de la mission de ceux qui le servent, des prophètes, il dit, ils enseigneront à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et lorsqu'on n'est pas vigilant sur les associations, sur les choses dans lesquelles on peut être versé, eh bien, on ne montre pas la différence. On ne montre pas qu'il y a des choses pures et des choses impures. Daniel montre qu'il y a des choses pures et des choses impures, qu'il est un enfant de Dieu et qu'il est soucieux de garder cela clairement dans son cœur et comme témoignage aussi auprès des personnes qu'il côtoie dans ces circonstances difficiles. Troisièmement, on peut voir aussi que cette séparation de Daniel consiste à se préserver, on le dit, donc garder son identité, mais se préserver particulièrement des souillures. Daniel est résolu de ne pas se souiller par les mets du roi ou par le vin que le roi buvait. Et donc l'adolescent avait, on pourrait dire, Daniel était adolescent à ce moment-là, il avait peur d'une seule chose, c'était d'être souillé, se préserver des souillures du monde. C'est quoi une souillure? Est-ce même qu'on se pose parfois la question de savoir ce que c'est qu'une souillure ou ce qui pourrait nous souiller? Je ne sais pas combien de fois vous posez cette question, est-ce que ça peut me souiller? Sommes-nous conscients que le diable rôde comme un lion rugissant et qu'il nous propose des mets de toutes sortes dans le but de nous souiller, simplement. Acte 15, 20, vous rappelez lors du concile de Jérusalem, les apôtres disent qu'on enseigne aux païens qui se convertissent de s'abstenir des souillures des idoles. Et l'apôtre Jacques disait que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc il est important de se poser la question des souillures. Qu'est-ce qui, dans notre temps moderne, peut constituer une souillure? Il y a beaucoup de choses que l'on peut regarder, que l'on peut lire, que l'on peut voir, qui sont des souillures du monde, que l'on peut transporter avec nous dans le secret même de notre chambre, sur nos écrans, et qui sont des souillures du monde. J'ai trouvé je vous ai déjà lu ça une fois, mais ce petit commentaire d'un texte qui vient d'une dépêche de l'AFP, c'était du 9 juillet 2004, et qui reproduit ici les propos de M. Lelay. Vous ne connaissez pas M. Lelay? Qui c'est qui connaît M. Lelay? Je ne sais pas s'il est toujours vivant. Mais M. Lelay, pas M. Delay, hein. M. Delay, c'est quelqu'un d'autre. M. Lelay, c'était le PDG de la chaîne TF1. Alors, TF1, vous connaissez. Voilà. Donc, c'est un extrait d'un ouvrage qui s'appelle « Les dirigeants face au changement ». Donc, il écrit ceci, il a dit, à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Vous pouvez dire, si on vous avait demandé, c'est quoi le métier d'une chaîne de télévision, vous allez dire, c'est informer les gens, leur apprendre ce qui se passe dans le monde et tout ça. Il dit, non, le PDG, hein, il dit, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Il dit, or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Donc, nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est le PDG d'une chaîne de télévision qui dit ça. Il dit, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Donc, quand on est là et qu'on avale heure après heure des choses, on est en train, quelque part, de se souiller, hein, de prendre des choses, d'accepter. Alors, des fois, ça peut être Coca-Cola pour la pub. Mais maintenant, il y a d'autres pubs qui sont autrement plus dangereuses que Coca-Cola. Hein? Il y a autrement d'autres pubs de concepts, de pensées qui sont autrement plus dangereuses que Coca-Cola. Et quand on se laisse absorber par toutes ces choses, peut-être inconsciemment, nous devons apprendre de la part de ces personnes que ce qu'on cherche, c'est vraiment à distiller dans la pensée. C'est le but de l'ennemi, de salir, de souiller la pensée avec toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne dormons pas comme les autres, mais soyons sobres et veillons. Et puis, quatrièmement, donc, je voudrais dire ici aussi que la séparation que Daniel montre ici consiste aussi à savoir proposer une alternative. Daniel n'est pas quelqu'un qui est fermé, bouché. C'est quelqu'un qui va chercher quand même un peu le consensus. On pourrait dire ça un peu. On voit Daniel ferme dans ses résolutions ici, mais qui est sensible à la situation des autres. Lorsque l'eunuque apprend ça, l'eunuque, il a peur. Hein. Il dit, alors regardez un petit peu le texte, il dit, Daniel dit à l'intendant, où est-ce qu'il est dit? Ouais, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon seigneur le roi, verset 10, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes de votre âge, vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Donc cet homme est dans une situation difficile. Et Daniel ne dit pas « Bon, ça c'est ton problème. Moi, je ne me souille pas avec les mains du roi. Ça c'est ton problème. » Il propose quelque chose. Donc, se séparer, c'est aussi peut-être être une force de proposition. Proposer une alternative. Des fois, on peut dire non à quelque chose, mais montrer que l'on est disposé à faire autre chose en remplacement. Ça arrive une fois, je me souviens, quand mes enfants étaient jeunes, à un moment donné, Priscille était tout au collège, et il fallait lire un livre, il fallait lire Harry Potter. Bon. Et puis, il y avait tout un tas de textes, c'était ce qui m'avait mis un peu qui avait fait dresser mes cheveux, c'était écrit « Mesdemoiselles, devenez sorcière, c'est un métier d'avenir. » Quand j'ai vu ça comme texte à étudier, j'ai dit « Ah non !» J'ai dit « Bah pas !» Et puis, il fallait lire Harry Potter. Alors, je suis allé voir la prof, bien sûr, elle n'était pas d'accord avec moi du tout. Hein. Et elle m'a dit « Mais j'ai des collègues qui sont chrétiens, ils ne voient aucun problème. » Allez, j'ai dit « Les collègues chrétiens font ce qu'ils veulent, c'est ma fille. Moi, je ne veux pas qu'elle lise cela. » Je ne dis pas que je ne veux pas. Elle aura zéro. Je dis, ce que je vous propose, c'est de lui donner un autre devoir sur autre chose. Elle m'a dit, non, ça c'est le programme et c'est ce que je vais lui donner. J'ai dit, sinon elle aura zéro. J'ai dit, ben, dans ce cas, vous allez lui mettre zéro. Mais elle ne lira pas le livre. Je vous le dis, elle ne lira pas. Voilà. Et donc, elle n'a pas lu le livre et elle n'a pas accepté non plus la proposition ici. Mais bon, ce que je veux souligner par là, c'est qu'il faut parfois proposer quelque chose, pas forcément être simplement dans l'opposition. Il faut avoir une force d'opposition, mais en même temps une force de proposition. Et Daniel avait cela. Il ne se souille pas par les mains du roi, mais il dit au chef des eunuques, il dit ceci, il dit « Éprouve tes serviteurs pendant 6 jours et qu'on leur donne des légumes. Tu regarderas ensuite notre visage. Tu feras ceci, tu feras cela. » Et puis, il dit « Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Hein? » Il propose vraiment ici autre chose. Donc, être séparé, vivre la foi dans les circonstances difficiles, ça n'est pas simplement s'opposer à tout ce qui est contre la parole de Dieu, mais c'est parfois aussi avoir un cœur qui comprend la situation difficile dans laquelle les autres se trouvent, même les non-chrétiens se trouvent, dans laquelle le patron se trouve, dans laquelle le chef de service se trouve, dans laquelle le collègue se trouve, et proposer tout ce que l'on peut faire et tout ce qui est faisable pour nous en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, donc j'espère que ça va nous aider un petit peu, je vais m'arrêter là, hein, que ça va nous aider un petit peu à considérer vraiment notre année, en tout cas, comment on peut vivre une vie triomphante au milieu de notre situation. Ici, eh bien, je résume, on a dit quoi ? Avoir déjà des résolutions arrêtées dans notre cœur, hein, de ne pas transiger quant à la parole de Dieu. Chercher à tout prix à ne pas perdre notre identité de chrétien. On est des enfants de Dieu et on veut vivre comme des enfants de Dieu. Se questionner sur ce qui sont des choses qui sont de véritables souillures. Il y a des choses qui ne sont pas des souillures, mais il y en a plein que nous faisons peut-être qui sont des souillures ou qui sont des moyens qui peuvent nous souiller. Et puis, parfois, bien, être suffisamment souple aussi pour aider les gens à accepter notre position. Prier même que Dieu dispose les cœurs de ces personnes à accepter autre chose que je peux faire, dans lesquels je peux m'investir ou aider en tant que croyant. Parce qu'on veut pas s'extraire du monde, on veut pas s'extraire du travail, mais on veut vivre une véritable vie chrétienne au milieu des circonstances du travail, du lieu d'habitation où le Seigneur nous a placés. Voilà, que le Seigneur nous aide dans cela. On peut chanter encore un cantique. Je vous laisse choisir, hein.